Vous êtes sur France Culture. 6h30, les infos. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. En Turquie, Muharrem İnce ne s'est pas encore exprimé à l'issue des élections présidentielles et législatives d'hier. L'homme qui a réussi à tenir tête à Recep Tayyip Erdogan pendant la campagne électorale ne lui imposera pas de deuxième tour, au grand désespoir de ses nombreux soutiens. Reportage à Istanbul de Géraldine Allot. Dans ce journal également, la suite et la fin de la visite en Chine d'Édouard Philippe. Il sera question aujourd'hui de la probable levée de l'embargo chinois sur le bœuf français vieux de 17 ans. Dominique André nous appelle de Pékin. En France, nouvelle étape judiciaire aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes dans laquelle est impliqué Nicolas Sarkozy. Explication de Laurent Doulsan. Muharrem İnce tiendra une conférence de presse à la mi-journée à Ankara. Le principal opposant à Recep Tayyip Erdogan dans la campagne électorale qui s'est achevée hier n'a pas encore reconnu officiellement sa défaite. D'après les autorités électorales turques, c'est pourtant bien le président sortant qui est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Erdogan aurait recueilli plus de 52% des voix au premier tour. Victoire également de l'AKP aux législatives. Ce qui laisse évidemment les soutiens de Muharrem İnce dépités entre ceux qui se résignent et ceux pour qui l'espoir existe encore. Reportage cette nuit dans les rues d'Istanbul de Géraldine Allot.
Abattus, sonnés, muets, les militants du CHP ont eu du mal à trouver les mots hier soir.
Je suis très déçu. Ça me donne envie de quitter le pays. Vous avez vu le monde qu'il y avait lors de nos meetings à Izmir, Ankara, Istanbul. Non, franchement, je suis effondré.
Les cadres du parti refusent de parler de défaite. Un second tour est encore possible, disent-ils. Mais Serhat, un jeune militant, n'y croit déjà plus.
Je pense que nous avons perdu. Même si les responsables de notre parti ne veulent pas l'admettre et parlent de manipulation de la part du pouvoir en place. Cette défaite est incompréhensible. Nous avons réuni au total 7 millions de personnes dans nos meetings. Cela représente plus de 10% des électeurs. Non, vraiment, je ne comprends pas.
Les militants du CHP étaient d'autant plus dépités que leur leader, le charismatique Muharrem İnce, n'a fait aucun discours à la télévision hier soir, comme si lui aussi avait du mal à trouver les mots.
Reportage de Géraldine Allot. J'espère que personne n'essaiera de semer le doute sur les résultats et de nuire à la démocratie pour masquer son propre échec. Extrait d'une déclaration cette nuit à Ankara de Recep Tayyip Erdogan qui parle d'une révolution démocratique à propos de sa victoire. Victoire donc également aux législatives. L'alliance dominée par son parti, l'AKP, aurait recueilli plus de 53% des voix dans le volet législatif du scrutin hier. Les 28 pays européens s'apprêtent à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et à abonder les fonds d'aide aux pays d'origine des migrants. Mais ils n'arriveront pas à s'entendre lors de leur prochain sommet cette semaine sur une répartition communautaire des demandeurs d'asile. Voilà ce qui ressort de la réunion préparatoire à ce sommet qui s'est tenue hier à Bruxelles entre les dirigeants de 16 pays. Une réunion informelle qui n'a pas débouché sur des mesures concrètes mais qui a notamment permis d'écarter des solutions non conformes à nos valeurs d'après Emmanuel Macron citant les stratégies de refoulement. Le dernier jour de la visite d'Édouard Philippe en Chine, après un discours à l'université Tsinghua, le Premier ministre français s'entretiendra notamment avec son homologue chinois, puis avec le président Xi Jinping au Grand Palais du Peuple, où il sera probablement question de la levée de l'embargo pesant lourdement sur les exportations de bœuf français. Une annonce officielle chinoise est attendue avec impatience, probablement aujourd'hui, dans ce dossier. Depuis Pékin, la correspondance de Dominique André.
Les négociations avancent pas mal, peut-on entendre dans le camp français. L'heure de la levée de l'embargo sur le bœuf français en vigueur depuis 17 ans n'a jamais été aussi proche. En janvier, lors de sa visite d'État en Chine, Emmanuel Macron avait annoncé que la Chine lèverait l'embargo dans les 6 mois. La décision chinoise devrait être, si tout se passe comme prévu, annoncée aujourd'hui lors d'une cérémonie de signature au Palais du Peuple. Les enjeux sont énormes pour les Français. Si le porc reste la viande de choix des Chinois, la nouvelle classe moyenne est affamée de viande rouge. La Chine est le deuxième plus gros importateur de bœuf dans le monde. L'an dernier, les Chinois ont importé 700 000 tonnes de viande bovine en hausse de 20% par rapport à 2016. Cet engouement pour le bœuf est une aubaine pour la filière bovine française, touchée par les changements alimentaires des Français qui consomment moins de viande. Si l'embargo est levé aujourd'hui, le bœuf français entrera en compétition avec le bœuf australien et le brésilien déjà très présents sur le marché. Le mois dernier, les autorités chinoises ont inspecté 7 usines françaises, signe que le dossier a bien avancé Il manque maintenant la signature pour que le bœuf tricolore revienne dans les assiettes des Chinois.
Dominique André. Et dans son billet économique tout à l'heure, Jean-Marc Chardon reviendra sur les relations économiques franco-chinoises, des relations déséquilibrées. Rendez-vous à la fin du journal de 7h. Le fils de Sophie Petronin est parti hier soir pour le Sahel. À 75 ans, la dernière otage française retenue dans le monde a pu envoyer, mi-juin, une preuve de vie à ses proches. Dans la vidéo publiée par ses ravisseurs, elle appelait son fils à venir la rejoindre, ce qu'il est en train donc de tenter, seul, en tout cas sans l'aide officielle des autorités françaises. C'est pour, dit-il, faire bouger les choses. Les explications de Mathilde Dehimi.
Il va tout faire pour voir sa mère, sans naïveté, précise Sébastien Chadeau-Pétronin, mais son appel à la rejoindre n'a pas été publié par hasard.
On n'est pas des têtes brûlées, je pense que ma mère sait très bien ce qu'elle fait, et si ses ravisseurs ont décidé de le diffuser, c'est qu'il y a une possibilité, on veut exploiter cette possibilité à fond, parce qu'on ne sait toujours pas si elle est malade, on est obligé de répondre.
Direction le Niger et la Mauritanie. Pas le Mali, dit son fils, qui préfère rester discret sur ses contacts sur place. Oui, il y a des risques, dit-il. Le Quai d'Orsay est bien au courant, mais il a toujours préféré la discrétion. Il est temps de cesser le silence et de passer à l'action, répond Sébastien Chadeau-Pétronin.
Je ne peux pas non plus tout dire. Je ne peux pas exprimer mes colères, mon incompréhension, parce que j'espère toujours que l'État va nous apporter à tous des perspectives un petit peu plus intéressantes que celles qu'on avait jusqu'à maintenant.
Pour le soutenir, d'anciens otages, Ingrid Betancourt et ceux d'Areva enlevés au Niger, Pierre Legrand a passé 3 ans aux mains des mêmes ravisseurs que l'humanitaire.
Quand j'étais malade, ils ont toujours cherché à me soigner. Donc je me dis qu'ils font la même chose. C'est en ça aussi où j'espère pouvoir rassurer la famille de Sophie Petronin. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et pour moi, la médiatisation a permis à me maintenir en vie, faire basculer ma libération. C'est vraiment important.
La famille Petronin se sent isolée. On n'a jamais été reçu par le président de la République, regrette-t-elle.
Les explications de Mathilde Dehimi. 10 personnes ont été interpellées ce week-end dans les mouvances d'extrême droite en France. Elles sont soupçonnées d'avoir planifié des actions violentes contre des musulmans. Ces arrestations menées par les services de la DGSI se sont notamment déroulées en Corse, en région parisienne, dans la Vienne et en Charente-Maritime. Un retraité de la police nationale figurerait parmi les personnes interpellées. Elles ont été placées en garde à vue pour une durée pouvant atteindre 96 heures, puisque nous sommes là en matière de lutte antiterroriste. En France, une nouvelle étape judiciaire aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes qui vaut à Nicolas Sarkozy d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Dans ce dossier, l'ancien président et l'un de ses avocats, Thierry Herzog, sont soupçonnés d'avoir voulu corrompre un haut magistrat de la Cour de cassation. Aujourd'hui, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris statue sur la validité des écoutes téléphoniques qui constituent le socle de l'accusation. Explication de Laurent Doulsan.
Depuis qu'il a appris son renvoi devant le tribunal correctionnel dans cette affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy ne lâche rien. Il bataille farouchement avec ses avocats pour éviter cette épreuve judiciaire qui pourrait lui valoir une lourde condamnation. Les faits qu'on lui reproche, corruption active et trafic d'influence, sont en effet passibles de 10 ans de prison. L'ancien président a donc immédiatement fait appel de la décision du parquet national financier, ses avocats dénonçant, je les cite, « une décision totalement incompréhensible et le traitement particulier qui serait infligé à leurs clients ». Les conseils de Nicolas Sarkozy estiment que ce renvoi devant le tribunal a été annoncé alors que l'instruction n'était même pas terminée. Le débat d'aujourd'hui devant la chambre de l'instruction porte effectivement sur un point crucial puisqu'il concerne la validité des écoutes téléphoniques à l'origine de la mise en cause de l'ancien président.
Laurent Doulsan. 175 médecins de différentes régions de France ont pris la plume pour s'adresser directement à Édouard Philippe, le Premier ministre. Ils affirment, ces médecins, ne plus pouvoir remplir leur mission de service public par manque de moyens. Le déficit des hôpitaux a doublé entre 2016 et 2017 pour atteindre près d'1 milliard d'euros. Et dans leur courrier, daté du 15 juin, rendu public hier, les 175 signataires, représentant selon eux 1300 praticiens, alertent sur une mise en danger de la vie d'autrui. Dans le sud de la Syrie, l'imminence d'une attaque du régime de Bachar el-Assad contre les insurgés. Nous sommes là dans la province de Dera. Hier, un hôpital a été endommagé et 5 civils tués au cours de raids aériens. La Russie aurait prêté son concours à cette opération, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les Américains font savoir aux rebelles qu'ils ne doivent pas compter sur une intervention américaine. Ils ne doivent compter que sur eux-mêmes dans l'éventualité d'une offensive. Une journée, une nouvelle fois, très ensoleillée sur la majeure partie du pays. Les nuages du matin sur les régions du Nord se dissiperont vite. Quelques risques de pluie en Corse et sur les Alpes, c'est à peu près tout. Ailleurs, ce sera une journée estivale. Température maximale entre 20 et 28 degrés au Nord, jusqu'à 33 degrés sur le Sud.